Tout de suite, c'est le moment de retrouver l'émission mensuelle Un moment pour la Terre avec France Nature Environnement. Et c'est avec Pierre Gottardi, président de France Nature Environnement 04, et en présence aussi de Mario Chabanon pour revenir sur la conférence de débat du 17 mai qui a eu lieu au Mai. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour à tous, merci.
Bonjour tout le monde.
Nous souhaitions revenir sur donc la conférence débat qui a eu lieu au Mai à l'initiative de plusieurs associations du département. Donc il y a l'association Riverain Ensemble Durance qui s'occupe beaucoup de la qualité des eaux dans le Val de Durance. Éco-Horizon qui est basée à Horizon comme son nom l'indique. Élue association usagers publics, c'est une association qui se bat pour le retour en régie publique des réseaux d'exploitation d'eau potable. L'association Santé Environnement France, dont un des membres est venu parler des pesticides. Et puis, notre santé, parlons-en. Et donc, et nous-mêmes, FNE04, qui avons participé aussi à l'organisation. Alors, en introduction, en fait, on voulait revenir sur le problème des pesticides suite à la pollution qui a été identifiée sur la commune du Castellet. Donc, un nouveau captage qui a été mis en œuvre par la Comcom des LVA. Et qui s'est retrouvé pollué par un pesticide issu du traitement des cultures par un fongicide. Voilà. Alors, en parallèle, il y a une campagne d'analyse des cheveux des habitants dans la Durance. Et donc, dans les analyses, on a trouvé plus de 40 molécules différentes qui ont été identifiées lors de ces prélèvements. C'est quand même assez inquiétant, surtout que les prélèvements étaient assez dispersés sur la zone. Et une remarque qui nous a été faite donc, lors de cette introduction, c'est qu'en fait, il est très difficile d'obtenir l'information sur les épandages qui sont réalisés par les agriculteurs, alors même que les registres d'épandage sont obligatoires et sont contrôlés par la direction régionale de l'agriculture, PACA, qui est à Marseille. Donc, la première intervention a été faite par le docteur Collomb, donc, qui est un médecin généraliste à la retraite, qui adhère à France Nature Environnement PACA et à l'association Association Santé Environnement France, la CEF. Donc c'est un ensemble de médecins qui travaillent sur des sujets de santé publique et notamment les pesticides. Donc les pesticides font beaucoup de victimes en France et ces maladies, elles touchent aussi bien les riverains que les travailleurs dans les zones concernées. Et donc l'association a deux objectifs, donc l'information de la société et la formation éventuellement des médecins pour savoir diagnostiquer les maladies et pouvoir analyser l'origine si ce sont des pesticides. Voilà. Alors, il faut bien comprendre que le terme de pesticide comprend en fait différentes familles de produits qui tuent les êtres vivants. Hein. On a les herbicides qui sont plutôt pour la partie donc les plantes, les fongicides qui sont plutôt qui s'attaquent plutôt aux maladies donc des champignons, les insecticides qui tuent donc tout ce qui est les insectes. Voilà. Et les produits les plus connus, c'est le glyphosate hein, qui est le produit de base qui était mélangé avec d'autres produits pour faire le Roundup. Et puis le chlordécone, qui est un insecticide qui était beaucoup utilisé en Martinique et en Guadeloupe pour traiter la banane et qui a été utilisé par dérogation jusqu'en 1991, alors qu'il a été interdit dans les autres pays à partir de 1973 ou 1974. Voilà. Donc, il faut savoir que tous ces produits chimiques qui sont issus donc, de la chimie de synthèse sont des molécules complexes qui, en général, se dégradent avec le temps pour faire des métabolites. Et en fait, les molécules de dégradation, on les connaît très mal et très souvent, on ne connaît pas non plus tous les métabolites et on ne connaît pas forcément la toxicité de ces métabolites. Je prends l'exemple du diclobénil, qui est un herbicide en granulé qui était mis sous les lavandes, qui était utilisé beaucoup aussi pour la vigne. C'est un produit qui apparemment se dégrade très vite, donc les granulés disparaissent parce qu'effectivement, le produit, le dichlobenzyl, se transforme en 2,6-dichlorobenzamine. Et le 2,6-dichlorobenzamine, c'est un produit qui est très soluble dans l'eau et donc il disparaît très vite. Et donc il pénètre dans le sol, il pénètre dans les nappes. Par contre, il a une durée de vie qu'on connaissait très peu quand, dans les années 2000, quand on a mis en évidence ces pollutions. Et en fait, même aujourd'hui, on n'est pas sûr de sa durée de vie qui est peut-être de plusieurs centaines d'années, puisque les molécules elles-mêmes se dégradent au fil du temps et on ne sait pas en quoi elles se dégradent dans certains cas. Voilà. En France, donc, on utilise 7000 tonnes par an de pesticides. Donc, c'est... Ah non, 7000, ça j'en suis sûr.
C'est sûr ?
Oui, ouais, 7000. Ouais, mais... Non, 70 000, c'est... c'est 7000 tonnes, ça j'en suis sûr. Oui, mais je crois que c'est même... Enfin, un petit peu plus que 7000 tonnes, mais c'est ça, c'est la moyenne, c'est ça. D'accord. Alors, une nouveauté est apparue dans le système de traitement, c'est l'épandage par drone. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait des épandages avec des rampes qui aspergent le sol, donc qui sont très près du sol, à 30 ou 40 cm. Donc, ça veut dire qu'on a une relative précision des jets qui vont mettre en place le produit. Après, on est passé à l'épandage pour les cultures arboricoles avec des bonbonnes qui font un brouillard. Hein, quand la bonbonne passe entre les rangs, qui permet d'immerger l'ensemble du feuillage des pommiers avec les pesticides. Dans certains cas, les grandes cultures étaient traitées par avion, donc des petits avions de traitement, et aujourd'hui, on a des drones. Et en fait, on s'aperçoit que le panache généré par les drones est beaucoup moins précis que tous les autres systèmes qui étaient utilisés avant, et donc ça veut dire qu'on arrose de manière beaucoup plus large. Voilà. Un produit dont on parle beaucoup aujourd'hui, ce sont les PFAS. Alors il faut quand même savoir que les PFAS, c'est un tout petit peu la partie émergée de l'iceberg des produits chimiques, parce qu'effectivement ce sont des molécules qui sont dites éternelles, c'est-à-dire qu'elles ne se dégradent pratiquement pas, mais tous les produits chimiques qui sont ingérés par l'homme ou par les animaux, en fait ils se retrouvent dans les déjections, ils se retrouvent dans les effluents qui sont traités par les stations d'épuration, et en fait en général ces produits chimiques traversent la station d'épuration sans traitement, parce que les traitements biologiques classiques des stations d'épuration ne sont pas adaptés à ce type de molécules. Alors, ces produits des pesticides, ils s'attaquent en fait à la vie. Hein. Donc, c'est l'objectif, puisqu'ils détruisent la vie des êtres sur lesquels on les pose. Donc, ces pesticides, enfin, tous ces produits, quand ils sont dans l'air ou qu'ils sont dans l'eau, ils sont à l'origine de très nombreuses pathologies dont souffrent les populations qui sont touchées. Hein, donc, en dehors des facteurs génétiques, on peut compter, on a les troubles cognitifs et comportementaux. On a les dépressions, on a les maladies neurodégénératives, on a la maladie de Parkinson, l'endométriose, on a des affections vasculaires, des affections respiratoires ou dermatologiques. On peut avoir aussi des AVC et puis des pathologies qui touchent les ganglions, dans ce qu'on appelle les lymphomes. Hein. On a aussi des cas de tumeurs cérébrales et on a aussi des cas d'arrêt cardiaque. Voilà. Concernant la maladie de Parkinson, cette maladie est très présente dans les populations qui œuvrent en milieu vitivinicole, et effectivement la vigne nécessite beaucoup de pesticides quand on est en culture intensive, et par exemple c'est une culture qui a beaucoup utilisé le dichlobenzyl pendant longtemps, quoi, le même produit que pour la lavande. On sait que, par exemple, que le chlordécone engendre des cancers de la prostate dans la population masculine, puisque les taux de contamination du cancer de la prostate en Martinique ou en Guadeloupe explosent les ratios mondiaux. On est les premiers, les champions du monde dans ce domaine, dans ces territoires. Alors, on sait qu'on peut dépister les contaminations aux molécules chimiques à travers l'examen des urines. Mais malheureusement, les dépistages des cancers ne sont pas toutes pris en charge par le système de santé actuellement en vigueur. On fait des dépistages, par exemple, sur le colorectal ou le dépistage du sein, mais en fait, on ne fait pas le dépistage des autres cancers. Voilà. Alors, face à ça, il y a un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides qui a été créé. Parce que quand on regarde les statistiques, la MSA, donc la Mutuelle Sociale Agricole, a recensé quand même 2% des maladies contractées par l'agriculteur sont dues aux pesticides. Donc, le seul moyen de prophylactique pour diminuer le risque des cultures, c'est d'intégrer une rotation des cultures qui fait que certaines cultures ne sont pas traitées pour éviter justement le surdosage en pesticides. Voilà. Alors, face à ce phénomène, donc ce que nous disait le docteur Colomb, et c'est qu'en fait, il nous faut être ni optimiste ni pessimiste, mais il faut être déterminé à agir.
Si belle, les vignes de l'année auront de beaux raisins. On voit se rassembler déjà les hirondelles, mais il faut se quitter. Pourtant, l'on s'aime bien. Quel joli temps se dire au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans sur la fumée des cigarettes. L'amour s'en va, mon cœur s'arrête. Quel joli temps pour se dire au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans. Les fleurs portent déjà les couleurs de septembre, et l'on entend de loin s'annoncer les bateaux. Beau temps pour un chagrin que ce temps couleur d'ambre. Je reste sur le quai, mon bientôt. Quel joli temps, mon amour, au revoir. Quel joli temps pour jouer ses 20 ans sur la fumée des cigarettes. L'amour nous reviendra peut-être un soir au détour d'un printemps. Oh, quel joli temps, le temps de se revoir. Jamais les fleurs de mai n'auront paru si belles. Les vignes de l'année auront des beaux raisins. Quand tu me reviendras avec les hirondelles, car tu me reviendras, mon amour, à demain.
Retour dans un moment pour la terre.
Voilà, on parle de pesticides. Nous, on appelle ça des pesticides. Les fabricants de ces matériaux, entre guillemets, appellent ça des produits phytosanitaires. Alors, ça sonne bien, phytosanitaire, c'est bien. Lors de cette journée, le 17 mai, au mai, une habitante de Villeneuve nous a fait part de ce qui lui est arrivé. Une jeune maman d'un petit garçon qui, à l'âge de 14 mois, c'était début janvier 2023, a vu sa vie complètement transformée. Le petit garçon hospitalisé à la Timone à Marseille a été atteint d'une leucémie. Et bien sûr, il a fallu des soins qui durent longtemps, qui sont lourds, des traitements, 2000 traitements chimiothérapie sur 2 ans. Et aujourd'hui, à 5 ans, il semble à peu près guéri. Une étude révèle que tous les ans, c'est 2300 jeunes enfants qui sont diagnostiqués pour une leucémie. Si je me permets de revenir en arrière, j'ai plus de 70 ans. Je me souviens, dans ma jeunesse, les cancers étaient relativement rares. C'était souvent sur des personnes âgées, mais il y avait très peu de cancers. Et on voit que la proportion des cancers augmente de mal en pis. Alors, résider dans un environnement où l'arboriculture et la viticulture sont présents accroît le risque de contracter ces maladies. Quoi. Dans ce cadre de vie, à proximité des pommiers, à proximité des oliviers, souvent les vignes aussi sont pas mal traitées. Quoi, hein. Et il ne faut pas croire aussi, les pommes de terre aussi font partie de ces éléments qui sont le plus traités avec des pesticides. Mais par exemple pour les pommiers, ils traitent entre 30 et 40 fois par an, on dit. Donc en pleine saison, là, quand ils s'y mettent, tous les 2 ou 3 jours, ils passent des traitements, quoi. Alors, cette maman nous indiquait que rien n'était respecté, qu'on avertissait pas les voisins avant les traitements, on leur disait même pas quels étaient le type de traitement qui était appliqué. Donc, voilà, la maman, elle fermait ses fenêtres, elle ramassait ses enfants et elle restait enfermée dans sa maison pour pas subir tous ces produits. Voilà, il y a une autre participante qui a déménagé et elle développe un cancer des poumons. À 61 ans, elle a malgré sa vie saine, elle mange bio un maximum, elle ne fume pas, elle ne consomme pas d'alcool. Et voilà, elle résidait à proximité de champs de pommiers. À plusieurs reprises, elle a constaté qu'il y avait des odeurs un peu bizarres et que les abeilles aux alentours tombaient comme des mouches. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et les oliviers aussi, elle s'est aperçue qu'ils étaient pas mal traités selon les maladies qu'il y avait. Un de ses voisins apiculteurs est décédé. Elle souligne que la règle de ne pas pratiquer l'épandage lorsque les vents sont trop forts n'est pas respectée. Voilà. On a eu aussi un témoignage d'une médecin généraliste qui, durant 40 ans, s'est investie dans les associations de santé sur Manosque. Elle a été amenée à soigner des patients qui ont vécu dans le Val de Durance et à Villeneuve. Elle a recueilli des propos. Terrible, j'arrive pas à descendre. Hop. Je parle pas, c'est dans le micro.
Oui.
Donc elle a soigné des personnes qui ont travaillé avec les arboriculteurs, et elle disait que, enfin, ces personnes lui expliquaient que pour quand il y avait des gros traitements, tout ça, ils leur demandaient de se mettre à l'abri. Et puis, dès que le traitement était passé, ben, ils étaient obligés d'aller travailler au milieu des arbres. Ils avaient, et ces personnes avaient souvent beaucoup de problèmes de santé. Voilà.
Oui, donc je vais prendre la suite pour une petite intervention donc, que j'ai faite pour présenter les périmètres de protection des captages d'eau potable. En fait, en France, on a une réglementation pour l'alimentation en eau potable qui est assez stricte quand on la respecte. Et en fait, l'objectif, c'est effectivement de conserver sur le point de prélèvement d'eau une qualité constante, autant sur le plan physico-chimique que sur le plan bactériologique. Voilà. Donc la procédure qui permet d'autoriser l'utilisation d'un captage d'eau, en fait, elle est basée sur une étude hydrogéologique et une étude un petit peu du contexte de la source ou du forage. Qui permet de définir donc des paramètres de protection et puis des mesures de gestion de ces périmètres pour garantir la longévité de la qualité. Voilà. Donc le premier périmètre de protection qui est défini, c'est un périmètre qui est situé autour du captage et qui doit être donc acquis par la collectivité, clôturé, nettoyé, enherbé, de façon étendue, de façon à ce qu'on puisse ne rien y faire. Voilà, ça. Donc ça, c'est vraiment la zone qui protège l'ouvrage de prélèvement. Bon, j'ai connu des ouvrages de prélèvement qui n'avaient pas de périmètre de protection, où il y avait des cultures qui étaient quasiment contre le mur du captage ou du forage. Donc cette partie-là est très importante. Après, on a un deuxième périmètre donc, qui se situe en général autour et au-dessus du, quand on est dans une pente, au-dessus de l'ouvrage. C'est une zone géographique qui donc, est prévue pour protéger efficacement la qualité des eaux qui peuvent rentrer dans le sol et dans le captage de façon à garantir l'absence de pollution. Voilà. Donc, ce périmètre de protection rapproché est défini par l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique qui est donc désigné par l'ARS pour faire cette mission. Et donc, dans ce périmètre-là, sont prévues des prescriptions d'utilisation du sol qui interdisent les pollutions, comme les épandages de fumure, les produits phytosanitaires, le fait de faire packager des animaux, et puis tout travaux qui est susceptible de dégrader l'eau et sa qualité. Voilà. Donc, ces périmètres, sont instaurés après par une déclaration d'utilité publique. Voilà. Alors, le troisième périmètre, c'est un périmètre de protection éloigné, qui est beaucoup plus large et qui vise à éviter qu'on apporte des pollutions, mais le troisième périmètre n'a pas de prescription qui s'applique de manière... c'est plutôt des recommandations. Voilà. C'est la grosse différence entre le périmètre de protection rapproché et le périmètre de protection éloigné. Donc ce dossier, une fois qu'il est terminé, donc c'est une procédure qui est assez longue, puisque bon, pour faire tout ça, il faut facilement entre 2 ans, 2 ans et demi. Ce dossier est soumis à enquête publique, et donc il est déclaré d'utilité publique par une déclaration d'utilité publique, et en même temps, on fait une enquête parcellaire, puisque sur les parcelles qui sont concernées par le périmètre de protection rapproché, on impose des servitudes. C'est-à-dire que tout ce qui effectivement est interdit, eh bien, c'est interdit et c'est marqué au niveau de la parcelle. Donc elle est frappée de servitude. Voilà. Alors le problème de cette réglementation, c'est qu'elle est très efficace si on l'applique comme il faut. Ça veut dire qu'il faut aussi que le travail préliminaire d'analyse hydrogéologique du site ait été fait de manière pertinente par l'hydrogéologue. Enfin, en général, c'est quand même des bons techniciens. Le problème c'est derrière, c'est notamment les servitudes. C'est quand on est dans des zones agricoles de package en montagne, par exemple, si on a des zones d'exclusion des packages sur des zones où on veut conserver une qualité bactériologique, notamment en ne mettant pas d'animaux ou bien de zones de stockage d'animaux dans ces périmètres, mais effectivement, ça gêne. Ça génère des contraintes pour les agriculteurs qui devraient être indemnisés, puisque bon, effectivement, s'ils ont moins de surface à packager, s'ils ont moins à faire brouter, et s'ils ont moins des difficultés pour amener leur troupeau, ou les voilà. Donc il faut effectivement leur prévoir des mesures d'indemnisation. Et ce qui est excessivement rarement fait aujourd'hui. Et donc, du coup, ça pose un vrai problème de maintien de ces périmètres dans le temps. En plus, les périmètres de protection immédiate qui doivent être clôturés et donc en permanence pour éviter qu'il y ait des animaux qui rentrent dessus. Par exemple, dans les zones où il y a de la neige, surtout dans les pentes, c'est très compliqué de maintenir une clôture efficace dans le temps si les collectivités n'y prennent pas soin en permanence. Voilà. Donc ça, c'est les principales difficultés qu'on a vis-à-vis des captages. C'est effectivement le maintien des clôtures, c'est le respect des prescriptions par les propriétaires et l'indemnisation éventuellement qu'on peut avoir derrière pour ces gens-là. Voilà. Alors c'est sûr que par rapport à ça, l'agriculture biologique, c'est une bonne solution. Donc on a eu après ça une intervention du responsable de l'agriculture biologique dans le département, M. Domas, donc, qui lui est à la retraite maintenant, mais donc, qui pratique l'agriculture biologique depuis une cinquantaine d'années, puisqu'il continue aujourd'hui. Et il témoignait en disant que la pollution par les pesticides impacte aujourd'hui des milliers d'hectares en France, que ces produits qui ont été épandus sur les terres dans les années 50 sont toujours présents, et que dans certains cas, même la culture bio est contaminée. Donc, il parlait d'un produit, alors je ne sais plus lequel, qui a été mis sur certaines terres, où en fait, il est comme les PFAS. On a l'impression qu'il est toujours là. Et donc, les gens qui récupèrent des terres, qui n'ont même pas, même si elles n'ont pas été traitées pendant plusieurs années, en fait, quand ils font l'analyse sur les produits qui sont cultivés, ils sont contaminés par ces molécules. Et donc, en fait, les gens qui voudraient effectivement faire bien ne peuvent pas, parce que la terre, elle est contaminée pour des années et des années, quoi. Voilà. C'est vrai qu'aussi en parallèle, c'est bon. Oui. On a aussi des pollutions qui ont été générées dans la Durance. Or, il faut savoir que la Durance est utilisée pour l'irrigation gravitaire, et il est probable aussi que dans certains cas, les sols aient été contaminés par des produits issus de la pollution de la Durance, notamment par les pollutions qui étaient générées par Arkema avec des solvants chlorés. Par exemple. Voilà. Et aujourd'hui, le gouvernement, au lieu de faire un effort vis-à-vis des gens qui sont respectueux de la nature et des sols et des cultures, eh bien, en fait, ils sont en train de supprimer les aides spécifiques pour les cultures bio. Voilà. Tout ça pour faire plaisir à l'FDSEA, à FNSEA, pardon, qui est un fervent partisan des traitements phyto. Voilà. Et pour lui, ça préfigure une catastrophe, parce que ça veut dire que si on n'a plus personne qui se met en bio, ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de produits chimiques dans les sols. Il faut savoir que ces produits chimiques, en fait, ils tuent les sols en plus. Parce que non seulement ils tuent les insectes qui sont effectivement des prédateurs sur les cultures, mais ils tuent aussi des insectes qui sont dans le sol. Donc en fait, au bout d'un moment, le sol, c'est un substrat physico-chimique, et c'est plus du tout un sol vivant, quoi. Or, on sait que c'est le sol qui peut stocker l'eau, c'est le sol vivant qui est un piège à carbone, on sait que c'est le sol vivant, c'est vraiment la vie des plantes. Et tout ça vit en symbiose. Un autre témoignage nous a été apporté aussi, c'est un monsieur qui était originaire de Madagascar et qui nous a effectivement raconté qu'en fait les pesticides interdits en France, ils sont toujours commercialisés à Madagascar, mais en Afrique. Effectivement, pour avoir vu un reportage à la télévision, on trouve aujourd'hui du Roundup qui est vendu en bouteille d'un litre, comme on vendrait de l'huile ou de la mayonnaise, dans les épiceries au fin fond de l'Afrique, quoi. Et comme les gens ne connaissent pas les doses d'utilisation, très souvent les gens ils surdosent pour être sûr que ça soit efficace dans leur jardin. Et donc, on a une double peine sur ces choses-là, quoi. Voilà. La question qui avait été d'ailleurs posée par cet intervenant, c'était de savoir si au lycée agricole de Carmejane, l'agriculture bio était enseignée. Et effectivement, l'enseignement bio fait effectivement partie du cursus de l'enseignement agricole à Carmejane. Donc c'est rassurant, même s'il n'y a pas beaucoup de bio qui s'installe. Voilà. Et un autre intervenant nous a fait quand même remarquer que la Durance, qui traverse donc nos départements, alimente la commune de Marseille, l'agglomération de Marseille. Alors oui, c'est vrai, effectivement, l'eau de la Durance est utilisée pour toute l'agglomération marseillaise. Et donc, ça veut dire que les polluants qu'on peut mettre dans les cultures, dans les bassins versants, comment qu'ils se jettent en Durance, ou bien le long de la Durance, comme dans les plaines d'Aimée ou Manosque, en fait, ben, tout ça, ça se retrouve effectivement dans l'eau, et que ça donc alimente les habitants de Marseille, sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, les molécules, elles traversent dans certains cas, les stations d'épuration d'eau potable. C'est-à-dire que si on n'a pas de traitement à la résine ou avec des traitements beaucoup plus forts ou sur des membranes filtrantes, en fait, on les retrouve dans l'eau à faible dose. Voilà.
Sans savoir que c'était de l'acide. J'avais le torse velu. J'aurais sacrifié le premier venu pour me faire une place grasse.
Bien grasse.
C'était trop blanc. Cette impression d'être dans le temps. Faire un bleach pour faire un putsch. Table rase du passé. Mon cœur palpite dans la baie.
Dans la baie.
Où on se baignait si heureux.
Ah, qu'est-ce qu'on était bien.
Avant de rejoindre les malheureux.
Les malheureux.
Dans le grenier des livres moisis.
Les voisines.
J'entends l'arbre tomber. Mais plus jamais la forêt poussée. Et le pollen disparaît. Flouteur de discours. Menteur pour
toujours.
Flouteur de velours. Et tu fais le sourd.
Le sourd.
Beauté usée des beaux. Fais bien des bobos chez les bobos. Pendant que les prolos sur le burnous. Avant la boue de la loose. Moi je vends des produits chimiques qui donnent des réactions allergiques. Et des injonctions paradoxales. On souffre, on gémit, on râle. Putain fou, qu'est-ce que tu fais? Fausse route chimiste de misère. Le temps passé dans la gouttière. Gis dans le cimetière. Adieu le bronze, adieu la trique. Bonjour la phytomécanique, t'as bouffé des pesticides.
c'était Degen, le vendeur de pesticides.
Juste avant la fin de la conférence, donc, on a eu une intervention de Yannick Becker de la Confédération Paysanne qui nous a rappelé les conditions de production, les contraintes que subissent les agriculteurs. Et c'est vrai que, comment dire, on a un vrai problème sur l'agriculture conventionnelle, entre guillemets, hein, c'est un terme qui n'est pas forcément adapté. En France, c'est-à-dire qu'effectivement, les produits qui sont mis sur le marché par les agriculteurs sont payés au prix quasiment mondiaux. Et donc, du coup, ils ont beaucoup de mal à lutter contre les pays où la main-d'œuvre est moins chère et où les produits phyto sont disponibles sans aucune réglementation, etc. quoi. Et donc, on a beaucoup insisté sur la nécessité de maintenir les aides en bio de façon à conserver cette filière. C'est la seule filière propre qui nous permettra de conserver, des sols en bon état, de conserver la santé pour les gens et de reconquérir la qualité de l'eau si on s'y met, quoi. Voilà. Il faut, a priori, donner des aides au niveau national, mais une des solutions aussi, c'est d'essayer de faire évoluer l'agriculture en agissant localement. Et moi, je suis effectivement extrêmement sensible à cet argument-là, en disant que si on s'organise localement, si on organise les filières de consommation, si on arrive à intégrer les produits locaux, bio, dans toutes les cantines, comme ça se fait déjà dans certains collèges qu'on a pu voir, sur la Motte du Caire ou sur Saint-André ou des choses comme ça, il y a beaucoup de choses qui se font localement. Et si on arrivait à développer ces filières à une échelle un peu plus importante, à échelle départementale, pour permettre effectivement d'avoir une nourriture de meilleure qualité basée sur une agriculture respectueuse des sols et des espèces, on serait quand même beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus garant d'une qualité d'eau pour nos enfants dans les années qui viennent, quoi. Voilà. Il y a un autre témoignage après ce qu'avait dit Yannick Becker. C'est un habitant de Corbières. Corbière, effectivement, encore récemment, l'eau a été déclarée non potable parce que à cause d'un problème de pesticides utilisés sur la vigne, sur des parcelles qui jouxtent le captage et pour lequel, aucune mesure n'avait été prise, au titre de la santé. Voilà. Et on a eu le même problème, sur les captages qui étaient en bordure du Durance, à l'époque où il y avait des grosses pollutions liées à Arkema. Il faut quand même savoir que pendant 30 ou 40 ans, les captages de la Brianne, Ganagobi, Villeneuve étaient traités avec des charbons actifs pour enlever les solvants chlorés qui contaminaient l'eau de manière importante. Et malheureusement, on continue à avoir des épandages de glyphosate, par exemple, sur les voies ferrées. Donc, c'est des épandages à grande surface. Alors, on dit qu'il ne faut pas traiter le bord des cours d'eau. Mais enfin, quand vous avez un train qui passe à 30 ou 40 à l'heure, on n'est pas sûr qu'il puisse fermer les injecteurs au bon endroit, au bon moment, quoi. Voilà, Et je pense que la seule solution face à ces problèmes ces pesticides, c'est il faudrait qu'il y ait un sursaut quand même global au niveau de la société, que les gens soient conscients et qu'il y ait une pression qui soit exercée sur les élus pour arrêter ce massacre, aussi bien de la biodiversité que toutes ces maladies qui sont... Ils sont payés parce que finalement, les gens qui sont malades, ils n'ont rien demandé. Mais par contre, c'est eux qui payent parce que c'est quand même eux qui alimentent la sécurité sociale. Voilà. Et donc, en conclusion de cette assemblée, donc le maire d'Aimé est venu nous saluer et donc a pris la parole. Et il a effectivement insisté sur le fait que la commune d'Aimé produisait beaucoup de pommes dans des conditions pas forcément toujours respectueuses des principes de précaution par rapport à la pollution sur la nappe de la Durance notamment. Et donc, effectivement, il a souligné le fait qu'il fallait faire des efforts pour essayer de limiter ou de réduire le risque de pollution de l'eau, quoi. Voilà. Et puis, il a fait une petite aparté pour dire que dans sa commune, les gens réclamaient toujours des allées bien propres, sans aucune herbe, des chemins communaux bien nettoyés, etc. Et que donc, la commune s'était engagée dans une démarche zéro phyto, donc ce qui est tout à fait respectable, et que donc, les employés communaux étaient obligés de nettoyer avec des binettes, avec des outils, donc le moindre brin d'herbe qui pouvait pousser, ou une petite fleur. Et donc, il appelait les habitants d'Aimé à être un petit peu plus tolérants vis-à-vis des ce qu'on appelle les mauvaises herbes, qui ne sont pas si mauvaises que ça, puisqu'elles poussent, pour effectivement pouvoir considérer que si les rues comportent quelques plantes vertes, ce n'est pas forcément ni toxique, ni pénalisant. Voilà.
C'est terminé pour cette émission.
Oui, merci voilà. beaucoup voilà. à tous.
Merci Pierre-Yves Tardy, merci. Merci. Monsieur Chabanon, le prénom, je ne m'en rappelle plus.
Mario,
bien sûr. Et on retrouve cette émission sur notre site Fréquence Mistral dans nos émissions. Bonne journée à tous et puis faites attention à ce que vous mangez.
Et buvez.
Et buvez, voilà. Merci.